100 francophones et canadiennes. Du Hillbilly Boogie au Western, en passant par le Bluegrass jusqu'au Country Pop, c'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL.
CIBL, au cœur de la culture.
On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous souhaite la bienvenue dans la Cabane à contes, l'émission où on vous raconte des histoires. Ce soir, mon invitée, elle est conteuse, musicienne, médiatrice, elle s'appelle Evelyne Ménard. Allô Evelyne.
Bonjour, bonsoir.
Merci d'être avec nous dans la Cabane à contes.
Ça fait vraiment plaisir.
En plus, tu n'es pas de Montréal, donc tu as fait la route, pas juste pour venir nous voir, mais je profitais de l'un de tes passages pour qu'on enregistre une émission.
Exact.
Tu es dans les Lanaudière? Non?
Je suis entre deux régions, vraiment.
OK.
Donc, je suis à la fois dans Lanaudière puis dans le sud de la Montérégie. Ouais.
Où exactement?
Saint-Paul-la-Botsford-Grimby.
Super.
Ouais.
Alors, tu n'es pas venu de là-bas les mains vides, tu es venu avec une histoire à partager avec nous?
Oui, oui. C'est une histoire que je raconte depuis quand même assez longtemps, mais qui m'est très chère. C'est... J'avais fait un spectacle, un de mes premiers spectacles autour de la thématique du fil, des fileuses, donc cette histoire-là, elle me porte encore, après bien des années. Oui.
Formidable. Est-ce que tu te sens prête à nous la partager?
Oui. C'est l'histoire d'une vieille qui avait eu 14 enfants, toutes placées, toutes casées, sauf sa petite dernière. 21 ans, sur le bord d'être vieille fille, toujours pas de prétendant. Sa mère, elle a dit, là, ma fille, si t'es pas capable de t'en trouver un homme, m'a-t'en trouvé un, moi. Puis à part ça, elle avait entendu que le roi du village cherchait une fille à marier. Elle s'est dit, ça va être ma fille. Fait qu'elle s'est installée sur sa galerie, puis elle a attendu que le roi passe dans le rang. Puis une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quand elle l'a vu tourner le coin du rang, elle s'est levée, est allée le voir, elle dit « Monsieur le roi, monsieur le roi, paraît que vous cherchez une fille à marier? Laissez-moi vous présenter ma fille. Elle est fine, et puis il n'y a rien qu'elle ne sait pas faire, elle est bonne artisane, je vous le dis, c'est un bon parti. » Quand le roi a entendu ça, hey, « c'est pas vrai. » Depuis qu'il était parti le matin, là, toutes les filles, les mères du village, ils couraient après, mais lui... Il ne voulait pas marier n'importe qui, c'était un roi. Oui, mais monsieur le roi, ma fille, là, est tellement bonne artisane là, que je vous le dis, elle est capable de filer la paille en or. Oh! Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. De la paille, il y en avait plein sa grange, elle a pu savoir quoi en faire, tout ça transformé en or. Fait qu'il regardait la vieille et il dit, écoutez, madame, votre fille, je vais apprendre à l'essai. Si elle est capable de filer la paille en or, je vais la marier. Puis si elle n'est pas capable, ben, je vous la retournerai. La mère rentre dans la maison. Mais ma fille, tu peux pas croire ce qui arrive. Le roi t'a choisi. Puis là, ben, il va. Tu vas partir avec lui au château. Mais avant, je vais te donner ton héritage. Puis elle lui a donné un collier puis une bague. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'était la dernière d'une famille de 14 enfants. Puis à part de ça, pour elle, c'était déjà pas mal. Elle était bien contente. Elle a pris son trésor. Elle s'est assise à côté du roi dans charrette. Puis ils ont filé jusqu'au village. Elle s'imaginait déjà princesse. Avec une belle grande robe, un diadème, des bijoux, des diamants partout. Mais elle a vite déchanté. Parce que le roi, il l'a emmenée dans la cave. Avec un tas de paille, un rouet. Puis il a dit, ma fille... Pas ma fille. Mais ma belle, tu vas filer ça en or. Puis il est reparti, il est remonté, il est sorti de la cave. Elle l'a pas trouvé drôle. Mais voyons, voyons. Qui croit à ça qu'on peut filer de la paille en or? Non, non, ça se peut pas. Puis là, elle s'est mise à regarder autour. Dans la cave, c'était humide, c'était froid, elle était pas bien. Puis là, elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ben, elle a tellement pleuré qu'elle a pas vu le temps passer. Puis le soir, vers minuit, est arrivé un petit bonhomme. pas grand. Les petits pieds en écaille, le nez tout croche, les petits doigts tout rabougris. Il l'a regardé. Ben voyons, ma pauvre, qu'est-ce que t'as à broyer de même? C'est le roi. Il veut filer. Il veut que je file la paille en or, puis ça se peut pas, puis personne peut faire ça, puis je vais rester ici. Ce bonhomme dit, attends. Moi, je suis capable de faire ça. Mais tu sais, dans la vie, on n'a rien pour rien. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ce que je te donne... Tiens, prends ma bague. Le petit bonhomme, il a pris la bague. Il l'a mis dans sa poche. Puis il s'est mis à filer, à étirer, à entortiller la paille qui est devenue un beau fil d'or. Quand le roi il a vu ça le lendemain, oh, il était fier, pas à peu près. Il a pris tout l'or, il est allé le mettre dans un coffre-fort, puis il est revenu dans la cave avec un tas de paille, deux fois plus gros que la veille. Bon, elle savait pas plus comment filer la paille en or. Mais elle s'est dit, là, ça se peut. Fait que toute la soirée, elle a regardé le tas de paille, le rouet, puis le tas de paille, puis le rouet, tant et tellement qu'il est arrivé les minuit. Elle a vu le petit bonhomme apparaître, avec son gros nez croche, ses doigts tout rabougris, ses petits pieds en écaille. Ah ben, t'as encore du travail pour moi. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Tiens, prends mon collier. Il a pris le collier. Et il a filé, entortillé, tiré la paille qui est devenue un beau fil d'or. Quand le roi il a vu ça le lendemain, il était content. Il est redescendu dans la cave avec un tas de paille trois fois plus gros que la veille. Là, elle l'a pas trouvé drôle. Parce que là, elle savait que le petit bonhomme pouvait le faire, mais elle avait plus rien à y donner s'il revenait. Puis là, elle s'est mise à pleurer, puis à pleurer, puis... Elle s'est dit, ben, je suis pas plus folle qu'un autre, moi. J'ai toujours bien essayé. Elle prend de la paille, elle la met sur la grande roue du rouet. Ben, je vous dis, si vous faites ça, il n'y a jamais rien qui va filer. Tout se passe sur la petite bobine. Fait qu'elle s'est dit, ben, elle a pris le fil, elle a essayé de l'entortiller autour de la bobine. Mais non. Ça n'a pas fait un fil d'or du tout. Il y avait de la paille qui revolait partout. Puis le petit bonhomme est arrivé. Ah ben... Je vois que t'as encore du travail à me faire faire. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ce que je te donne, j'ai plus rien à te donner. Je t'ai déjà donné tout mon héritage. T'auras toujours quelque chose à me donner. Si je fais la paille en or, tu vas te marier. Si tu te maries, tu vas avoir des enfants. Ben, je veux que tu me promettes le premier enfant que tu vas avoir. La pauvre fille qui était plus capable de rester dans le fond de la cave, elle a dit oui, je te le promets. Le petit bonhomme, il a pris la promesse, il l'a mis dans sa poche, puis il s'est mis à tirer, étirer, entortiller le fil, la paille qui est devenue un beau fil d'or. Quand le roi a vu ça le lendemain, il a pris tout l'or, il est allé le mettre dans son coffre-fort, ben, le coffre était plein, il en a rempli un deuxième, puis il est redescendu dans la cave avec une belle robe, toute tissée à la main. Et la jeune femme, elle a mis la robe et fièrement, elle est montée à l'étage, au bras du roi. Ils ont fait un mariage qui a duré deux jours, trois jours de pur plaisir. Puis le temps passé, pas tellement que, ben, elle est tombée enceinte. Puis l'enfant est arrivé. Puis un soir, ben, elle était dans sa chambre tranquille, elle allaitait l'enfant. Quand elle l'a vu arriver, son gros nez croche, ses doigts tout rabougris, ses petits pieds en écaille, mais... Oh non, elle l'avait oublié, lui. Lui, il sourit, il s'approche, puis il dit... Je viens chercher ma promesse. Non, mais tu peux pas me faire ça. J'étais dans le fond de la cave, j'étais complètement dépourvue, je savais plus quoi faire. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Tu me l'as dit, une chance? Tu veux une chance? Bon, je peux bien te donner une chance. Je vais revenir demain. Si t'es capable de trouver mon nom, tu gardes l'enfant. Mais si tu le trouves pas, je l'amène avec moi. Elle dit, parfait, je vais le trouver. Ce soir-là, elle a pas dormi beaucoup. Elle a noté le nom de tous ses cousins, de tous ses voisins, puis il y en avait une longue liste. Puis quand le petit bonhomme est revenu le lendemain, elle dirait, tu t'appellerais pas Pierre? Jean, Jacques, Paul, Guy, Jules. Le petit bonhomme, il avait de plus en plus le grand sourire, puis il disait, non, c'est pas ça mon nom. Puis à un moment donné, elle est arrivée au bout de sa liste, c'était toujours pas son nom. Fait qu'elle a pris l'enfant doucement, puis elle l'a retiré de son cœur. Puis à ce moment-là, l'enfant s'est mis à chanter. Pour la femme que je file, oui, elle reste en ville, mais elle saura jamais que je m'appelle Ruciflet. J'ai les cheveux croches, puis les yeux comme de la broche, mais elle saura jamais que je m'appelle Ruciflet. Quand le petit bonhomme a entendu ça, il est devenu rouge comme une tomate, la fumée sortait par les oreilles, puis il a disparu. Elle a reproché l'enfant de son cœur, puis elle a chanté la chanson qui avait sauvé la vie. Pour la femme que je suis là, oui, elle reste en ville, mais elle saura jamais que je m'appelle Ruciflet. J'ai les yeux croches, puis les cheveux comme de la broche, mais elle saura jamais que je m'appelle Ruciflet.
C'était Batiska de Narragonia Quartet. Et mon invité de ce soir, c'est Evelyne Ménard. Merci pour cette belle histoire que tu nous as partagée. C'est une histoire que tu racontes depuis longtemps.
Oui, vraiment. Vraiment.
Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu du répertoire. D'où est-ce qu'elles viennent, tes histoires? Comment est-ce que tu les choisis? C'est quoi un petit peu ton rapport au patrimoine?
Oui. Ben, en fait, j'ai beaucoup de respect et de plaisir à découvrir toujours et encore les contes de tradition orale. J'ai comme point de base donc, les contes qui ont été recueillis ici au Québec ou même dans la francophonie canadienne. C'est déjà un très gros bassin. Je suis souvent partie même des archives, soit des textes des archives ou des audios, pour ensuite... en fait, j'aime beaucoup prendre plusieurs versions de la même histoire. Donc, je les lis et là, je vais voir... Des fois, je vais combler des vides d'une version à une autre. Puis ensuite, je vais faire ma propre histoire un petit peu. Donc, c'est comme un peu toujours une nouvelle version d'un conte, là. Donc, ça, c'est une des façons. J'ai la chance de rencontrer, pas beaucoup, mais quelques conteurs qui, encore vivants, qui m'ont raconté des histoires traditionnelles.
Donc, des gens dont le conte n'était pas leur métier, mais des gens qui avaient reçu eux-mêmes ou elles-mêmes les histoires de gens de leur famille et qui les transmettaient à l'oralité, comme
il y a longtemps.
Comme il y a longtemps, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu étonnant. C'est toujours un hasard, vraiment, de rencontrer des gens qui portent ce bagage-là, qui portent toute cette connaissance-là.
Ça a été un hasard? T'as provoqué ces rencontres-là?
Non, ça a toujours été un hasard. Le premier, j'étais à Emploi Québec et je proposais un projet. Puis là, il y a quelqu'un qui... L'intervenante me disait, ben moi, mon père raconte des histoires, là, donc voilà.
C'était des histoires, des contes québécois?
Oui, à Marieville. Puis ensuite, c'est ça, un autre, c'était avec une amie musicienne, puis il y avait un enseignant qui, à chaque année, racontait des longs contes qui duraient entre 35, 45 minutes et 1h15. Elle dit, ah ben, t'aimes-tu ça, les contes de Tijan? J'ai dit, oui. Et puis ensuite, donc je l'ai rencontré, c'est M. Bertrand Lamoureux. Il a mis quelques-uns de ses contes sur YouTube, donc c'est assez accessible. Et lui, c'était son grand-père qui racontait ces histoires-là. Et il vient de... Donc lui, il a étudié à Grimbay, puis on s'est rendu compte qu'il avait étudié avec mon père. Donc c'était vraiment... Il y avait comme une connexion encore plus forte parce que j'ai vraiment l'impression que je porte un répertoire qui vient de chez moi. Et puis, ce monsieur-là, je peux encore lui écrire et lui dire, j'ai une question sur les contes et tout ça. C'est vraiment... Puis c'est intéressant parce que c'est un intellectuel. Là. C'est vraiment... Il est enseignant, donc, tu sais... Et puis, il est capable d'articuler un peu qu'est-ce qui passe dans les contes, pourquoi il aime ça, pourquoi il a voulu transmettre ces histoires-là. Donc, voilà.
Quel sens.
Oui.
Mais donc, ça, c'est des histoires que tu as reçues, comme ça, directement ou dans les archives, dans des livres. Mais c'est aussi des histoires que tu transmets. Tu m'as déjà parlé d'un projet que tu avais dans les écoles avec un livre. En tout cas, une manière de faire compter les enfants.
Oui.
Est-ce que tu nous en parlerais un petit peu?
Avec plaisir, vraiment. C'est vraiment un beau projet où je vois les enfants qui s'épanouissent dans le plaisir de raconter. Donc ça, c'est... Le projet a débuté dans la Nodière, dans l'est de la Nodière. Et donc, il y a un monsieur qui est né au village où j'habitais, qui s'appelle Saint-Cuthbert. Et il est né en 1880, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, il est né au village. Après, il est allé vivre aux États-Unis. Il est revenu. Et sa mère, quand ils étaient aux États-Unis, l'environnement était un peu difficile. Et elle leur racontait des contes de sa région, de la Nodière. Et lui, quand il a été plus vieux, dans les années 30-40, a décidé d'écrire les histoires, de les enregistrer. Il y avait une vision qu'on devait garder ce type de récit-là. Et déjà, dans les années 20-30, il se disait « si je le fais pas, ça va se perdre ». Et il a rencontré Marius Barbeau, qui est le premier ethnologue québécois, donc le premier qui a vraiment enregistré puis amené une façon scientifique de voir ça. Ce qui se passait dans les campagnes au niveau des contes. Et donc, il a laissé 80 contes, beaucoup de jeux aussi pour les enfants, de comptines. Et avec la conteuse Isabelle Crépeau, on avait fait un premier projet où on en a choisi 60. On a fait les résumés, on a fait un outil pour que les enfants puissent choisir leurs contes. Et moi, j'ai poursuivi le projet dans un deuxième temps, puis un troisième temps, puis ça se poursuit toujours. Donc, chaque enfant entend des contes. Après ça, lit les résumés, choisit.
Il les entend raconter par toi?
Oui.
D'accord.
Oui, c'est ça. Parce que les contes, lui, il les a enregistrés sur des rouleaux. Et puis moi, j'ai essayé les chansons, là, c'est très difficile.
Oui.
Mais c'est agréable, mais c'est... Oui, moi, je trouve ça agréable, mais moi, je suis comme geek des archives.
Oui, je comprends.
Ce qui est peut-être...
Mais là, ça serait comme une étape de plus pour les enfants au niveau du son, au niveau de la langue. Donc, tu as préféré les refaire avec les moyens d'aujourd'hui.
Oui.
Donc, les enfants les entendent, regardent les résumés, en choisissent un.
Après, on s'amuse, on apprend à les raconter. Ils vont dans les textes les plus vieux. Vont aussi dans le texte complet pour ajouter des détails dans leur histoire. Ils choisissent, puis des fois, ils ont leur imaginaire qui rentre aussi là-dedans. Et on fait comme un balado, en fait. Un balado qui est diffusé dans l'école. Donc, c'est vraiment un moment. On s'assoit, on enregistre, on a un micro devant nous. Et c'est vraiment magnifique. Puis ça... Il y a quelque chose d'assez universel dans les contes, puis aussi dans la façon de raconter. Ils n'apprennent pas de texte, ils apprennent les images, ils apprennent le chemin du conte. Et si on leur demandait d'écrire, ils ne croiraient pas qu'ils ont parlé autant. Donc, c'est vraiment... Ça donne des outils avec les enseignantes aussi. On travaille, puis c'est vrai, c'est vraiment des beaux résultats.
À la fin du processus, un enfant, il est capable de rentrer chez lui et de raconter l'histoire à ses parents?
Oui. Même dans la cour d'école, les plus vieux racontaient aux plus petits. Ça, je l'ai vu. Je suis arrivée dans la cour d'école. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on raconte les histoires. Mais ça faisait déjà un mois que je n'étais plus là. J'étais vraiment très heureuse. Très heureuse.
C'est un très beau projet.
Oui.
Bravo.
Puis, avec ça, en fait, je suis assez honorée. J'ai quand même, parce que j'ai gagné quelques prix. Donc, ça m'encourage à continuer. Le prix de l'année du Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, et aussi dans le volet éducation, au Grand Prix de la Nodière. Et là, je suis aussi très heureuse de ça parce que c'est tous les projets en éducation, mais on a reconnu la valeur de ce qui avait été fait. Donc, Je suis vraiment contente.
Alors ça, c'est des projets de transmission qui sont tournés vers le folklore, là, des contes de tradition. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que tu es coincé dans le passé. Tu as un autre projet qui est tourné vers les nouvelles technologies. Je propose qu'on en écoute un extrait et que tu nous racontes.
Parfait.
Seules les frêles branches de saule, fouettant la maison d'Aïtaro, brisent le silence de la nuit. L'aube se lève doucement et l'homme n'a toujours pas trouvé le sommeil. Assis dans son lit, il observe l'arbre. Majestueux et noble, il a toujours été son refuge. Enfin, il gravissait ses branches jusqu'à la cime. Il s'imaginait atteindre le ciel. Adolescent, il y montait toujours, un sac rempli de livres sur l'épaule. Il y découvrait le monde à travers la prose et la poésie. Jeune adulte, il avait installé quelques bancs sous ses ramures et profitait de la proximité de la rivière pour se rafraîchir après les longues journées de travail. Un jour, cette femme était apparue dans l'ombre du saule, ses longs cheveux fouettant son dos. Jamais vue au village, et pourtant si familière. Il en était vite tombé amoureux. Ensemble, ils avaient eu un enfant et étaient devenus propriétaires d'un grand domaine. Sa vie avait coulé, douce et heureuse. Tandis que le sommeil lui échappe, il tourne la tête et regarde sa compagne qui dort paisiblement. Il n'a jamais su ses origines. Elle lui a demandé de ne pas la questionner à ce sujet. Et il a toujours respecté son désir.
Vous êtes toujours dans la cabane à contes et mon invitée de ce soir, c'est Evelyne Ménard. Alors, on vient d'entendre un extrait, on t'entend raconter, on entend de la musique, des sons, mais il manque une partie importante de ce projet-là, c'est l'image. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Oui, volontiers. En fait, c'est un projet qui s'appelle Fil de vie. En fait, donc qui est tout un processus que j'ai déjà commencé depuis 2 ans. La première étape, en fait, c'est que je vais à la rencontre des gens, donc vraiment d'une façon en médiation culturelle, où les gens me racontent une anecdote ou un fil de vie, quelque chose qui est important pour eux. Et moi, après, je recueille tout ça et je le mets en parallèle avec des contes. Donc, dans toute ma pratique, j'ai choisi les contes de tradition orale, parfois vraiment ceux qui sont ancrés dans mon territoire, mais dans des projets de création un peu plus larges, comme celui-là, ben là, je m'ouvre au répertoire mondial. Et là, je vais chercher un bout de phrase, des fois, qui me fait penser à une histoire. La première année que je l'avais fait, en fait, j'étais dans les parcs, puis je filais la laine, puis les gens venaient, puis on échangeait le savoir-faire contre une anecdote, tout ça. Puis j'avais toujours une araignée qui venait sur ma laine, sur mon dévidoir. Et donc, je me suis dit, j'ai pas le choix, je vais devoir raconter Arachné, qui est l'histoire là, qui explique la création des araignées, qui est un combat entre une déesse et une femme avec le tissage, en fait. Donc, gros résumé.
Ça, c'est l'histoire qui est racontée.
En fait, c'est l'idée du projet.
C'est l'idée du projet.
Et là, comme ça, ben, le bout d'histoire que vous avez entendu, en fait, c'est... donc, dans le nord de la Nantière, il y a des coupes à blanc. Et donc, c'est vraiment préoccupant, tout ça. Donc, le conte fait réfléchir sur l'importance de la nature puis de qu'est-ce qui peut se passer quand...
Et alors, le conte se mêle à de la réalité virtuelle.
Oui, pardon.
Raconte tout ça pour les auditeurs, les auditrices qui n'ont pas les images.
Ah ben d'abord, c'est de la réalité augmentée et non virtuelle.
Réalité augmentée, d'accord.
Donc, c'est deux procédés. Donc, de toutes ces histoires-là, moi, je me disais, ben qu'est-ce que... on dit le fil de l'histoire, la trame de l'histoire, et moi, j'ai voulu aller... pousser plus loin, puis dire, carrément, on va faire une trame et une chaîne. On va tisser une histoire. Donc, c'est mon ami Iso Miette-Bergeron qui a tissé l'histoire de la femme saule que vous avez entendue. Et puis là, on s'est dit, comment les gens qui entendent l'histoire et qui regardent l'œuvre, comment ils peuvent faire le lien et suivre l'histoire? Donc, on a décidé de faire comme une animation qui permet d'entourer les zones où on entend l'histoire. Et on a travaillé de cette façon-là avec... j'ai fait partie du Lab Artenso à la Cité des Hospitalières ici à Montréal. Et donc, là, on a toute une équipe en réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée virtuelle, c'est souvent, c'est un casque, en fait, et c'est un autre monde. Alors que la réalité augmentée, c'est ajouter un plus sur la réalité. Donc, on voit le tableau, puis en utilisant une tablette, il y a comme un déclencheur qui se fait et on voit une animation qui est comme une branche de saule qui vient entourer les zones de du tissage, sur le tissage.
Donc, tu arrives dans une pièce. Là, si j'imagine, moi, je suis le public, j'arrive dans une pièce, il y a l'œuvre qui est exposée là, le tableau. Je prends une tablette ou mon téléphone, mais ça va être plus petit. Donc, je prends une tablette, j'allume l'application, comme si j'allais prendre en photo le tableau. Et là,
ça s'anime.
Sur la tablette, sur l'écran de la tablette, ça commence à s'animer.
Ouais. Et pour l'entendre, en fait, on a des écouteurs qui sont sur les tempes plutôt que d'être dans les oreilles. Donc, ça permet d'entendre aussi la musique ambiante parce qu'il y a une musique autour, en fait. Donc, on entend la musique et on peut entendre par les écouteurs le conte qui est raconté. Et en même temps, ça déclenche l'animation. Il va falloir venir voir.
Mais exactement. ça veut dire qu'on est sur une on réinvente le son, on réinvente l'image et la réalité. Et tout ça à partir de contes de vieilles histoires de notre patrimoine.
Et de savoir-faire, donc celui du filage. Du filage parce qu'il y a de mes fils aussi qui sont dans le tissage, des fils que moi, j'ai fabriqués. Et puis, en fait, c'est ça, c'est qu'on cherchait un lien entre... puis on s'est dit, ben, on a des technologies. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que même moi, la première fois, je l'ai tenu droit en écoutant le texte. Mais après, c'est qu'on peut jouer dans l'image. L'image devient le son devient l'histoire. Et là, on est ailleurs. C'est vraiment une expérience artistique différente qui est vraiment agréable.
Eh bien, merci beaucoup pour de nous avoir raconté tout ça, ce pont que tu fais entre le passé, le présent, le futur... Et puis, c'est l'heure pour cette semaine de refermer la cabane à contes.
Déjà,
ça passe vite. Merci, Evelyne, d'être venue, de nous avoir raconté une histoire et de nous avoir parlé de tes projets.
Ben, merci à toi.
J'imagine qu'on peut retrouver ce que tu fais sur Internet, sur les réseaux sociaux.
Oui, exactement.
Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
Rejoignez-nous au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup à 19h tous les samedis pour un début de soirée riche en rire, réflexion et découverte. De Montréal jusqu'au lac Saint-Jean, Catherine Kennel, Lou Deneau ainsi que leurs collaborateurs vous font revisiter les événements marquants de la semaine avec humour, philosophie, cinéma et féminisme.
Pour conclure en beauté, un invité spécial se joint à nous à chaque semaine. La fièvre du samedi soir, elle est chez CIBL 101.5 où l'actualité se décortique sous toutes ses facettes.
Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'ils et qu'elles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Monsieur Bulle et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
Bonsoir, bon vendredi soir. Nouvelle émission de Courant d'air cette semaine. Je suis votre animatrice Sophie Chartier, de retour au micro après une semaine, un arrêt maladie, comme on dit, la semaine dernière. Donc, je n'étais pas là. Et me voilà de retour pour un nouvel épisode de Courant d'air. Ce soir, nous allons à la découverte d'un courant, on va dire, assez adulé, mais on va aller un petit peu creuser là, dans l'underground de tout.